Les petits papiers, culture au pluriel et militance au pluriel, sur Canal Sud 92.2 ou en streaming sur canalsud.net, en direct aujourd'hui 18 mars, comme tous les mardis de 14h à 15h, rediffusion le vendredi à 11h sur Canal Sud et le vendredi à 14h sur Radio Laura, la radio libre de Zurich, 97.5 MHz mais en Suisse, ou laura.ch. Et puis bien sûr en podcast, les petits papiers en podcast sur le site de Canal Sud, canalsud.net. On envoie un gros câlin à Fatima de réconfort, elle n'est pas avec nous aujourd'hui et pour des raisons pas rigolotes. Donc un gros câlin, Fatima, on te soutient. Et puis, aujourd'hui, bah, du coup, l'équipe des petits papiers, c'est Germain à la technique. Bonjour Germain, qui nous fait coucou, mais il veut pas donner de la voix aujourd'hui. Et puis, c'est Flore au micro. Ce matin à 6h, les mineurs isolés étrangers qui occupaient depuis 3 mois la gaieté lyrique à Paris pour réclamer leur reconnaissance et prise en charge en tant que mineurs ont été évacués par la force. À Lille, la lutte a payé pour la 50aine de garçons mineurs isolés mobilisés en novembre et la 15aine de filles en février. Ils et elles ont été mis à l'abri pour la durée de leur recours. À Toulouse, aucune prise en charge pour les quelques 200 garçons et filles mineurs isolés étrangères, alors qu'un tiers d'entre elles et eux sont scolarisés grâce à leur soutien. Depuis 2 ans, 40 jeunes filles mineures, pour certaines âgées de 14 ans, ont été mises à la rue à Toulouse par le funeste Daomi, censé évaluer leur minorité. À Toulouse aussi, les habitants du terrain de la Flambère, situé chemin de la Flambère, sont aujourd'hui l'objet d'une procédure d'expulsion lancée par la ville de Toulouse et le propriétaire privé. 115 personnes vivent encore sur ce terrain, occupé en 2008 de manière illicite, mais depuis 2010 de façon organisée et licite avec la mairie de Toulouse. 115 personnes qui ne vivent pas dans ce bidonville, sans accès à l'eau, par choix, mais parce qu'aucune solution d'hébergement digne ne leur est proposée. C'est ce qu'elles réclament via une pétition que nous mettrons en ligne sur le site de Canal Sud et qu'il faut signer massivement pour manifester notre refus d'une expulsion sèche des habitants et des habitantes du terrain de la Flambère. Parce qu'il y a urgence à parler du sort réservé aux personnes étrangères en France, par les temps qui courent, et parce qu'il est urgent d'agir et de se montrer plus que jamais solidaire, nous accueillons aujourd'hui dans Les Petits Papiers 2 invités dans notre studio, Sandrine Velasco. Bonjour Sandrine.
Bonjour Flore, bonjour Germain.
De la compagnie Le Thiez, organisatrice du festival Somilo Solidaire, qui aura lieu du 21 au 23 mars 2025 dans le Gers, à Lectoure et à Laromieux. Et on reçoit aussi aujourd'hui Jean-Luc Fruchard. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour France.
Tout marche, c'est merveilleux. Merci Germain pour cette technique incroyable. Jean-Luc Fruchard de l'association Somilo Solidarité Migrants et Migrantes en Lomagne. Vous êtes sur Les Petits Papiers, Canal Sud 92.2 Radio Laura en Suisse. On écoutait Esperanza en fond sonore pour toutes ces mauvaises nouvelles, à part à Lille où ça s'est plutôt bien soldé. Mais voilà, on écoutait Esperanza, c'est un duo Samson Schmidt et Yanis Constant. Yanis Constant étant un guitariste gersois. Et ils sont programmés tous les deux au festival Welcome in Tsigani à Seyssan le 26 avril à 19h30. On est dans le Gers, on a besoin d'espérance. Et donc on va passer un petit moment avec toi Jean-Luc pour découvrir ou explorer en tout cas ce qu'est cette association Somilo. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle est née, dans quelles circonstances, à quel moment?
Voilà. Eh bien, écoute, ce Milo donc, existe depuis une dizaine d'années. C'est écrit en 2016. Au départ, à l'initiative de quelques lectorois, et à la suite de la projection d'un film qui avait été présenté par la CIMAD, hein, la salle de cinéma d'Ectour. Donc on a démarré en 2016 à quelques-uns, et puis petit à petit ça s'est étoffé, et maintenant l'association a à peu près 80 adhérents qui sont soit de Lectoure et des environs, soit de Doge, de Toulouse, ou de un peu partout en France finalement, hein, des amis, de la famille, etc.
Oui,
l'idée de... Oui.
Non, juste, je voulais t'interroger, donc ça se crée à Lectoure après la projection d'un film, tu dis. J'aimerais bien que tu nous parles un peu, parce qu'on parle beaucoup des luttes dans les grandes villes autour des migrants, avec des collectifs bien formés, etc. On parle peut-être un peu moins des luttes de solidarité en zone rurale. Toi qui as peut-être une vision de ce qui se passe en milieu urbain et milieu rural, est-ce qu'il y a des caractéristiques
Ce qui se passe, si tu veux, c'est que bien sûr, le nombre de personnes, de migrants à Lectoure, ou même dans le département du Gers en général, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui peut exister dans les grandes villes, mais cependant, ça concerne pas mal de familles. Les réactions de la population vis-à-vis de ça dans l'ensemble, elles sont plutôt bonnes. Quand on a créé l'association, il y a eu un article d'un conseiller régional du Front National à l'époque, qui était très critique, qui parlait déjà de submersion et de grand remplacement. Il faut savoir que Renaud Camus habite tout près de Lectoure, à Plieu, donc il y a une petite influence, mais ça reste tout à fait modéré, quoi. Voilà. Et donc l'idée donc c'est de venir en aide à ces personnes, hein, qui se retrouvent. Au début, quand l'association a été créée, on a accueilli une famille de Syriens et de Kurdes, enfin de Kurdes plutôt, de Syriens et Kurdes, une famille de 9 personnes sur 3 générations, mais qui était en situation régulière, hein, donc ça se passait, ils sortaient d'une association qui s'appelle Regard à Auch, c'est un peu comme le CADA, c'est un peu la même activité que le CADA. Et puis quand ils sont partis, au bout d'un an, un an et demi, qu'ils ont trouvé leur autonomie complète, on a pensé que c'était préférable pour nous de venir en soutien à des familles déboutées du droit d'asile. Voilà.
Donc là, c'est vraiment le choix de la difficulté extrême.
Voilà, on a choisi de changer un peu de public, si on peut dire, parce que on a pensé que ces gens qui étaient les gens qui sont régularisés, leur situation est évidemment difficile, hein, parce qu'il faut quand même apprendre le français, trouver du boulot, s'intégrer, tout ça, mais ils ont quand même un soutien de la part de l'État, hein, ils ont droit aux prestations sociales, ils ont le droit de travailler, tandis que les gens qui sont déboutés se retrouvent du jour au lendemain sans rien, sans aucun droit, pratiquement sans aucun droit. Ils ont quand même, heureusement, le droit à la scolarisation et l'aide médicale d'État, qui a tendance à être rabotée de plus en plus actuellement, quoi. Voilà.
Donc le choix de soutenir des familles qui sont justement dans cette situation extrêmement critique d'être déboutées du droit d'asile. Quels objectifs vous vous êtes donnés? Qu'est-ce qui était réaliste d'envisager dans ce cadre-là?
Oui. Oui. Alors, en 2018, on peut dire, puisque c'était à peu près 2 ans après la création de l'association, l'obtention d'un titre de séjour était plus facile qu'aujourd'hui. Le but final, quand on accueille une famille, c'est de les aider à obtenir un titre de séjour, hein, parce que il faut bien voir que ces familles, elles sont toutes systématiquement opposées au retour dans leur pays, hein. Ce qu'elles veulent, c'est elles ont fait le grand pas de partir, et avec leurs enfants, leur famille, et ce qu'elles veulent, c'est réussir une intégration dans le pays où elles sont arrivées. Donc le but, c'est d'obtenir ça. Ça a été le cas pour plusieurs familles qu'on a pu accueillir, qui sont maintenant indépendantes, hein, qui habitent généralement dans le Gers, d'ailleurs. Hein. Et ça devient de plus en plus difficile parce que ben on sait bien que les lois anti-immigration se multiplient et sont de plus en plus rendent les choses de plus en plus compliquées. Hein. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y avait un peu l'idée que dans le Gers ou dans certains départements, l'obtention du titre de séjour était peut-être un petit peu plus facile qu'à Toulouse. Voilà, des politiques de préfet qui étaient un peu différentes, mais là, c'est vrai que ça s'est durci partout, en fait.
Oui,
c'est ça
s'est durci complètement, à tel point que maintenant, si tu veux, les familles qui sont déboutées obtiennent systématiquement une OQTF. Hein, au lieu d'avoir un titre de séjour, ils ont une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et cette OQTF, tant qu'elle est exécutable, il n'est pas question d'obtenir un titre de séjour. Quoi. L'an dernier, nous, on a présenté un dossier parce qu'il y avait une personne qui avait obtenu une offre d'emploi. Donc on a monté un dossier complet, bien ficelé, qui, en temps normal, aurait pu permettre d'obtenir une régularisation. Mais on a reçu la réponse de la préfecture. Madame, vous êtes sous OQTF, donc il n'est pas question, on n'a même pas ouvert le dossier. Quoi. Voilà, on en est là. Et le problème, c'est que l'OQTF, qui avant n'était exécutable que pendant un an, maintenant, c'est passé à 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, pratiquement, les perspectives sont quasiment nulles, quoi, pour trouver une régularisation.
Donc en fait, on en vient à créer une catégorie de population qui ne peut pas accéder à la régularisation tout en étant bannie hein, du fait d'avoir été déboutée du droit d'asile, d'être sous OQTF. Et pourtant, ouais. Ces personnes sont là. Elles, pour la plupart, elles travaillent. Elles ont des enfants qui sont scolarisés.
Oui, les enfants sont scolarisés. Ça, c'est qu'ils sont tous hein, scolarisés. C'est systématique. Hein. Dès qu'une famille arrive, on les inscrit à l'école. Et ça va très vite. Hein, les enseignants, les responsables des collèges, des lycées participent beaucoup à ça. Et donc, du jour au lendemain, on scolarise les enfants. Mais c'est le seul droit qui existe. Il n'y a aucune prestation sociale. Et théoriquement, il n'y a pas le droit de travailler. Alors, je dis théoriquement parce que il y a quand même une petite faille dans le truc, c'est les CESU. On arrive à faire travailler en CESU, mais ça reste toujours des choses limitées. C'est pas des emplois, on peut même pas dire que c'est des emplois à temps partiel. C'est quelques heures par-ci par-là auprès de différents employeurs, quoi.
Donc les CESU, ce sont les chèques emploi service universel, hein, c'est ça.
Chèques emploi service universel.
Oui, mais qui sont parfois contestés, d'ailleurs, à la préfecture, qui ne les considère pas comme des vrais.
Alors c'est un petit peu ambigu. Moi, ça m'est arrivé d'aller en préfecture pour soutenir un dossier et d'amener des bulletins de salaire en CESU. Alors, la préfecture dit oui, mais ça vaut rien, quoi. Mais en fait, elle ne me dit pas ouais, c'est absolument interdit, il faut pas le faire, quoi. Donc ça reste un peu. Et je pense que quand même, ça reste positif parce que ça montre que ces gens, malgré tout, ils ont travaillé dans une situation non pas régulière, mais enfin quasi officielle, en payant des prestations sociales, éventuellement en payant des impôts les années suivantes s'ils arrivent à développer tout ça. Et donc la préfecture le prend quand même du moins dans le GER, hein, l'expérience que j'ai, le prend pas mal. Et puis en plus, ça permet ces bulletins de salaire de justifier une présence sur le territoire aussi, parce que c'est une des choses qui est demandée, c'est d'avoir des éléments de preuve qu'on est sur le territoire. Et à l'heure actuelle, disons que si on n'a pas 5 ans de présence, on est quasiment sûr de ne pas obtenir le titre de séjour. Hein. Mmh. Non seulement le QTF dure 3 ans, la période exécutable dure 3 ans, mais après, il faut pouvoir justifier une présence sur le territoire de 5 ans. Et puis, chose qui s'est encore durcie récemment, c'est ce qu'on demande comme compétence en français. Hein. Maintenant, pour obtenir un titre de séjour, il faut vraiment bien parler français, quoi, ce qui n'est pas absolument évident quand on est dans ces conditions de vie précaires. Quoi.
Vous organisez des cours pour...
Alors, il y a un cours qui est organisé une fois par semaine. C'est difficile dans certains cas parce que suivant les familles, les gens sont plus ou moins engagés volontaires pour apprendre le français. Par exemple, si ça tombe pendant un moment où ils ont la possibilité de travailler, bon ben ça pose un problème. Mmh. S'il y a aussi des empêchements à cause des enfants, parce que je sais pas quoi. Hein,
de toute façon, la précarité n'aide pas à s'inscrire dans une activité régulière.
Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, mais ceci dit, il y a quelqu'un au sein de l'association qui fait un cours de FLE toutes les semaines. Et puis, il y a aussi des adhérents, des bénévoles qui font du soutien scolaire auprès des enfants.
Pour les enfants. Voilà. Et rappelle-nous, on parle beaucoup là du droit du sol qui est de plus en plus contesté. Si ces familles ont des enfants nés en France, est-ce que ça facilite les choses?
Non, c'est pas suffisant. Le droit du sol, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si les enfants sont nés en France de parents étrangers, ça ne leur donne pas accès au droit du sol. Après, le droit du sol, c'est aussi pour les enfants qui sont nés en France à partir de, je sais peut-être même sûrement mieux que moi, je crois qu'à partir de 16 ans, ils ont la possibilité de faire des démarches pour obtenir la nationalité française. Mais la notion de droit du sol est assez complexe, en fait. Quand c'est des familles, des enfants, il y a eu plusieurs enfants, nous, qui sont nés dans les familles qu'on a accueillies, qui sont nés à Auch, en général, dans le Gers, dans le département. Et ça ne leur donne pas le droit particulier, au moins, en tout cas, tant qu'ils ne sont pas arrivés à un certain âge.
Il faut le rappeler, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces questions-là. Et cette question du droit du sol, elle est souvent utilisée.
Elle est souvent utilisée et mal comprise,
parce
que c'est une notion assez complexe, en fait. Voilà. Donc on dit on supprime le droit du sol, mais on ne sait pas trop de quoi on parle en général.
Voilà. Est-ce que tu peux nous dire le nombre d'adhérents, de militants que vous qui œuvrent au sein de Somilo?
Alors, il y a à peu près 80 adhérents, mais c'est des gens qui ne sont pas forcément dans le coin. Donc ils sont bien entendu à remercier beaucoup parce qu'ils participent. Peut-être de loin, mais aussi financièrement, ce qui est quand même très important. Mais sur place, à Lectoure, ou dans les villes autour de Lectoure, Fleurance, Condon, il y a des adhérents qui sont bénévoles en même temps, actuellement, si tu veux, depuis le début de la création de l'association, on a reçu à peu près une quinzaine de familles de peut-être 10 nationalités différentes, donc c'est très varié, d'Afrique, d'Europe de l'Est. Actuellement, il y a 5 familles qui sont hébergées. Il y a 14 enfants dans les 5 familles. Ça fait du monde. Et si on prend maintenant sur l'échelle du département, on a beaucoup de relations dans le département entre les différents collectifs ou associations qui peuvent exister dans les différentes villes, à Auch ou les communes plus petites. On a, ça s'appelle CCM 32. Dans le département, si on prend tout ça, c'est une goutte d'eau vis-à-vis de la problématique, mais il y a quand même plus d'une centaine de personnes, largement plus d'une centaine de personnes qui sont hébergées et assistées au quotidien.
Oui, donc c'est évidemment c'est très peu, c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est comme le nombre de mineurs isolés, on se dit mais enfin quand même, ça serait quand même pas si difficile que ça de loger 200 jeunes et de les mettre à l'abri. Et puis en même temps, tant qu'ils sont à la rue, ça demande de déployer énormément d'énergie pour les militants et les soutiens.
C'est sûr que nous, à notre échelle, Somilo, c'est une petite structure et c'est très peu de choses, mais il faut que ça existe, et si ça existe dans pas mal de villes, ça finit par faire quand même une action qui est conséquente malgré tout.
Oui, et puis ça permet aussi de visibiliser la problématique, sinon ça resterait complètement abstrait. Alors on est venu, on s'est retrouvés là tous les quatre avec Germain à la technique pour parler du festival Somilo Solidaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était cette idée et qu'est-ce que vous recherchez en fait avec ce festival?
L'idée, fondamentalement, il y a deux idées. Il y a Je pense que c'est d'une part faire un événement un peu festif, de dire que bon, en ce moment c'est une sinistrose complète quand on parle de migrants et de nouvelles lois qui sont de plus en plus dures, quoi. Donc l'idée c'est aussi de dire bah oui, mais on peut aussi créer un événement festif, un festival, des spectacles, etc. Donc ça c'est la première idée, je crois, c'est de pas tomber toujours du côté de la sinistrose. Et puis la deuxième idée, évidemment aussi, c'est pour nous, du point de vue trésorerie, l'association a des difficultés, comme toutes les associations du département et je pense de France probablement, à tel point que les nouvelles familles qui sortent du CADA, on en arrive à dire maintenant on peut plus rien faire, quoi. On a plus les moyens d'accueillir plus de monde. Donc l'idée en même temps, c'est de récolter un petit peu d'argent de manière à pouvoir continuer si on peut faire plus, quoi. Voilà.
Tu parles de trésorerie, Jean-Luc. Quelles sont vos ressources?
Les ressources, il n'y a qu'une seule ressource, c'est les cotisations, les dons des adhérents. Il n'y a pas d'autres ressources. Hein. Il n'y a aucune ressource publique. Hein.
Ça serait vraiment incroyable.
Oui, il n'y a rien. Hein. Donc c'est simplement les adhérents qui payent une cotisation, qui font des virements mensuels ou des dons ponctuels, etc. Et de temps en temps, une manifestation dans le style de celle qui va avoir lieu ce week-end, qui permet de rentrer un peu d'argent. Et ça, il faut le dire aussi, grâce à la participation des artistes qui font ça pour ce week-end qu'on va organiser d'une manière complètement bénévole, quoi.
On va revenir sur ce sujet. On va te remercier beaucoup, Jean-Luc, de t'être rendu disponible au téléphone. C'était très éclairant. Donc, on va poursuivre l'émission avec Sandrine. Tu es bien sûr le bienvenu pour intervenir à tout moment si tu le souhaites.
D'accord, je reste à l'écoute. Et puis, si j'ai un commentaire à faire, je me manifeste.
On te sollicitera peut-être aussi. On va prendre une petite respiration. On va écouter un titre de Juliette.